Bonjour, Monseigneur Nicolas.
Bonjour Laurence.
Aujourd'hui, nous allons avoir un échange sur votre voyage en Corse qui était il y a quelques jours. Vous avez participé, vous êtes intervenu au colloque sur la religiosité populaire. Il y a eu également la présence du pape François, donc le dimanche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots déjà sur cette ambiance et comment ça s'est passé ce colloque?
Oui, alors il y avait ce colloque qui avait été prévu par le cardinal François Bustillo, qui est l'évêque d'Ajaccio, parce qu'il y a une présence très forte dans le diocèse d'Ajaccio, en Corse, des confréries qui organisent des processions, qui organisent des pèlerinages, qui sont là très présents dans les villages. Il avait voulu faire une journée de colloque pour les prieurs. Les prieurs, ce sont les responsables des confréries, ou bien leurs assistants, pour réfléchir justement à leur présence dans les paroisses et puis à leur mission dans l'Église. Voilà, et donc il avait invité aussi un évêque sarde et puis un évêque sicilien, puisque ce sont trois îles, disons, qui sont là présentes avec une culture très semblable. Il avait invité un ancien vicaire général d'un diocèse espagnol, et puis des personnes à la fois qui avaient l'expérience de ces confréries, donc des confrères, voilà, et puis des personnes qui sont universitaires de l'université de Corse, qui nous ont éclairés d'un point de vue plus, disons, sociologique sur la présence de ces confréries et de la foi populaire en Corse.
Sachant que nous avons aussi des confréries dans le Gard.
Oui, on a des confréries de pénitents, exactement. Alors, on n'est pas dans les mêmes proportions, parce que, par exemple, à Séville, vous avez une confrérie de la Macarena, donc plus grande confrérie, il y a 15 000 membres.
Mais c'est pas religieux, ça.
Si, bien sûr que
si. Macarena, oui, parce que je pense que les auditeurs, ils connaissent la Macarena, la chanson, la danse,
qui a
eu beaucoup de succès. La Macarena,
oui, mais ça vient
chrétien.
De Notre-Dame de la Macarena, qui est une église dans Séville, où justement cette confrérie est extrêmement importante. Alors, il faut savoir que les confréries, elles sont nées au XIe siècle, à Tolède, enfin en particulier à Tolède, puisque le vicaire général, l'ancien vicaire général du diocèse de Tolède, nous a expliqué comment les confréries étaient nées à Tolède. Les confréries sont nées pour enterrer les soldats laissés sur le champ de bataille, parce que il n'y avait pas les familles au moment de la reconquête. C'est intéressant de voir que ces confréries, elles sont d'abord au service de la population. Et se sont formés au nom de leur foi, au nom de l'Évangile. Ils ont été enterrés les morts parce qu'ils se rendaient bien compte que c'était un ultime acte de charité, si je puis dire, d'humanité, à faire pour ces personnes. Je dis ça parce que parfois on a l'impression que les confréries ne sont que des confréries liturgiques présentes là pour organiser des célébrations. Et en fait, non. Souvent, les confréries sont des confréries de solidarité. Et alors, à la Macarena, par exemple, si vous regardez sur le site de cette confrérie, eh bien, vous vous rendez compte que tous les membres de cette confrérie sont engagés auprès des toxicomanes, auprès des femmes seules, auprès des personnes âgées. Il y a dans l'ADN des confréries un engagement de solidarité, mais au nom de la foi chrétienne.
Oui.
Et alors, c'est parce que il y a cela que pendant la Semaine Sainte, il défile dans les rues de Séville. Là, c'est entre le jeudi et le vendredi saint, fêtant à la fois le don que le Seigneur fait de lui-même dans l'Eucharistie, et puis le vendredi saint, le don qu'il fait sur la croix, l'un, évidemment, expliquant l'autre. C'est parce qu'ils sont au plus proche des pauvres qu'ils peuvent représenter le Christ pauvre. Et c'est parce que le Christ est donné dans sa passion et s'est fait fragile entre nos mains qu'il a donné sa vie. C'est en son nom, vous voyez, qu'ils vont au secours des pauvres.
Ouais.
J'ai expliqué dans ma conférence là, sur la piété populaire que, justement, la piété, la vraie piété, c'est un acte de réponse à l'amour de Dieu, mais c'est aussi un engagement auprès de nos frères. Il y a de piété réelle, il y a de piété authentique, donc une piété envers Dieu, que si elle s'accompagne de gestes très forts, de charité, d'amour, de solidarité envers ceux qui nous entourent. Un acte de piété, c'est évidemment aller à la messe. Un acte de piété, c'est évidemment prier le Seigneur, lui faire confiance dans les épreuves. Mais un acte de piété, c'est aussi rendre service, demander pardon ou donner son pardon, visiter une personne malade. Voilà. Et donc là, vous voyez, la piété populaire, elle a un vrai sens.
Alors, tout à fait. Alors, vous parliez des processions. Alors, je pense aussi à Tolède, hein, les processions du Saint-Sacrement, toutes les processions aussi mariales. Hein, donc, on voit beaucoup en Espagne, en Italie. Il y en a aussi en France. Dans le Gard, dans la Méditerranée, il y a encore beaucoup aussi cette culture du pèlerinage, de la procession. Le 8 décembre, il y a eu des processions mariales, etc. La piété populaire, elle est partie de ses confréries particulièrement, et après ça s'est développé. Est-ce que les processions mariales, etc., ça rentre dans la piété populaire justement ?
Alors je pense que c'est quelque chose d'assez différent des confréries. Il y a des endroits où les confréries organisent des pèlerinages, mais le pèlerinage, il n'est pas lié spécialement à l'existence des confréries, tout simplement parce que, et c'est ça qui était intéressant, c'est qu'un pèlerinage, une marche, c'est une manière de vivre sa foi, de montrer sa foi de façon assez simple. Dans la piété populaire, il y a la foi d'un peuple qui s'exprime à travers le corps. Et donc, ça peut être en marchant, ça peut être en courant. Je vous dirai pourquoi ça peut être en courant tout à l'heure.
Ah oui.
Ça peut être derrière une croix, derrière la statue d'un saint. Et la piété populaire, c'est aussi ce petit chapelet que vous avez à la maison, ce petit autel que vous dressez avec quelques images pieuses. C'est une manière toute simple de montrer sa foi, au fond, à travers le corps, à travers ce qui est physique. Ce n'est pas quelque chose de très intellectuel. C'est une manière très incarnée de vivre sa foi dans la vie de tous les jours. C'est une manière aussi de représenter les mystères de la vie du Christ. C'est pour ça que je vous disais qu'en Sardaigne, l'évêque nous expliquait qu'il y avait, au moment de Pâques, dans un village, 900 hommes qui courent pieds nus sur 7 kilomètres et qui représentent comme ça Pierre et Jean qui courent au tombeau.
Voilà. Ah, c'est super.
Et alors ça, c'est quelque chose qui se fait depuis des années et qui se fait les hommes avec leurs fils, vous voyez. Alors c'est, vous me direz, ouais. Ah bah oui, mais pourquoi il n'y a pas des femmes? Bon, la question n'est pas là, c'est que ces gestes de la piété populaire, ils prennent parfois un tour, vous voyez, auquel on ne s'attend pas, mais ce sont des choses qui sont ancrées dans des traditions et des manières aussi de vivre sa foi, de transmettre la foi aux générations à venir. Et de représenter les mystères de la foi de manière extrêmement concrète, justement par le corps.
Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, c'est rentré dans une certaine tradition, même, j'ai envie de dire, des non-chrétiens participent. En fait, c'est un côté, je pense même au Petit Lumignon à Lyon pour la fête de l'Immaculée Conception, finalement cette fête des Lumières, qui a pris une dimension extraordinaire, alors qu'à la base, c'est quand même une intention chrétienne de célébration. Dans certains endroits, en fait, on a une diffusion de cette piété populaire qui était à la base liée à une pratique de la foi et qui s'étend finalement et qui devient peut-être une tradition dans un village, dans une ville. Comment vous expliquez ça ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi des expressions de la foi populaire qui se laïcisent même, hein, par exemple pour avoir un sapin de Noël, pas besoin d'être chrétien. Bon. Alors qu'au départ, c'est vraiment une représentation, disons, chrétienne, parce que c'est l'arbre de vie de la jeunesse qui est représenté là, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, et ce sur quoi on était interrogé justement pendant ce colloque en Corse, c'était sur le fait que la piété populaire est évangélisatrice. Mmh. Disons pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est vraiment, et ça le pape a apporté quelque chose, le pape François, c'était un point d'assistance. La piété populaire, c'est une piété qui jaillit spontanément du cœur du peuple chrétien. C'est pas forcément extrêmement organisé, en tout cas c'est pas un projet voilà, qui vient d'en haut, qui est organisé par les pasteurs, mais c'est un désir de manifester sa foi de manière physique à travers une marche, à travers une course, à travers l'ostension d'une relique. Et alors pourquoi c'est évangélisateur ? Parce qu'au fond il est assez simple de se joindre à une expression de la piété populaire. Mmh. Au fond, vous mettez dans la procession et puis vous y participez. Vous voyez, à la fois, l'Église a besoin de sa liturgie, d'un certain nombre de cadres qui sont donnés pour la prière, avec des règles aussi, mais l'Église aussi a besoin d'espace où tout le monde peut venir. Mmh. Pensez par exemple aux gens qui ne se joignent pas à la vie paroissiale pour une raison ou pour une autre, aux gens qui ne peuvent pas participer à la communion eucharistique. Dans une procession, ils sont là. Et non seulement ils sont là, mais ils sont présents, ils sont acteurs aussi. Parce qu'ils prennent un cierge, parce qu'ils boivent de l'eau, parce qu'ils font un geste de vénération d'une icône. C'est aussi une manière de participer. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de donner son pédigré. Mmh. Du coup, vous avez des gens qui viennent aussi, et aussi qui sont touchés. Je disais aussi l'autre jour que À Lourdes, si vous voulez, vous avez des tas de gens qui viennent, qui ne sont pas du tout pratiquants du dimanche, mais qui se joignent volontiers à ce qui est proposé, la grotte qui est là, qui est ouverte. Mmh. Et alors, il y en a aussi qui finissent par se confesser. Hein. Combien on a de confessions à Lourdes de gens qui ne sont pas confessés depuis 20, 30 ans, parce que le lieu est propice, parce qu'ils ont été touchés, parce qu'ils se sentent en confiance. Mmh. Aussi parce qu'il y a des prêtres présents. Hein, dans une procession, vous avez des prêtres qui sont là au milieu de la foule. On peut les voir, on peut leur demander un conseil, on peut leur parler, on peut leur poser une question. Et là, il y a une proximité avec les pasteurs qu'on n'a pas forcément quand il faut prendre rendez-vous par téléphone à la paroisse avec le curé.
Au niveau de ce colloque sur la religiosité populaire, vous avez dit notamment « Cela montre comment la piété populaire est une évangélisation du peuple par lui-même, sous la conduite du Saint-Esprit. Elle est faite de gestes, de signes, de paroles. Elle implique le corps, ce n'est pas anodin. » Ce qui est intéressant aussi, c'est cette évangélisation du peuple par lui-même. C'est-à-dire que le peuple aussi porte quelque chose du message du Christ par cette dévotion, etc. Et finalement, le peuple est acteur, parce que parfois dans la liturgie, le peuple est un peu plus passif. Il y a des réponses, dont on pense à la messe. Et là, en fait, le peuple est vraiment acteur. C'est ça que je trouvais intéressant aussi.
Oui, c'est un point qui est, je crois, extrêmement important et pour lequel le pape François a relancé, disons, la réflexion sur la religiosité populaire, parce que il y a assez peu de réflexions sur cette forme d'expression de la foi. Le pape François, pourquoi est-ce qu'il en a parlé ? Parce que les évêques d'Amérique latine y ont beaucoup réfléchi. Mmh. Et à la fin des années 60, la piété populaire est très présente en Amérique latine. À la fin des années 60, il y a eu quand même une remise en cause de cette piété, tout simplement parce qu'elle était entachée de pratiques qui pouvait sembler suspecte, par exemple que pour gagner son ciel, il fallait marcher beaucoup, bien se faire mal, vous voyez, par exemple, ou bien que, au fond, les saints étaient peut-être plus importants que le Christ pour être sauvés.
Bon, on pourrait parler de dérives un petit peu.
Il y avait des dérives, aussi, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui se faisaient payer pour organiser un pèlerinage, donc il y avait pas mal de dérives. Mais souvent, on a un peu la tentation de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Après cette remise en cause des évêques d'Amérique latine, il y a eu une réflexion. Et 10 ans plus tard, en 2007 en particulier à Aparecida, lors de la conférence d'Aparecida, la synthèse de cette conférence a été rédigée par le cardinal Bergoglio, qui est devenu donc le pape François. Mmh. Et il y a des passages très significatifs sur l'importance de la piété populaire comme manifestation de la foi des baptisés, en fait, les fidèles. Nous avons, parce que moi je suis un fidèle comme un autre, d'abord, par le baptême et la confirmation, nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et donc, les expressions de la foi populaire, c'est l'expression de la foi d'un peuple de manière spontanée. Et le pape y tient beaucoup parce qu'il dit, c'est un lieu où, au fond, les pasteurs sont avec le peuple. Ils ne conduisent pas tout, mais ils laissent aussi au peuple la capacité de laisser s'exprimer leur foi.
C'est ça, oui.
Alors lui, il dit que c'est un lieu théologique. Un lieu théologique, c'est-à-dire une expression de la foi sur laquelle il faut s'arrêter parce que Dieu parle à travers cela. Ouais. Parce que Dieu parle à son Église à travers cela.
C'est intéressant, oui.
Et il dit, les théologiens, ne boudez pas la question de la piété populaire parce qu'elle nous dit quelque chose de ce qu'est l'Église. Composé de fidèles qui sont fils et filles bien-aimés du Père par le baptême et la confirmation. C'est pour ça d'ailleurs que le mot de piété, il faut l'entendre dans son sens fort, non pas comme une expression un peu latérale de la foi chrétienne, mais la piété comme don du Saint-Esprit qui est donné à la confirmation et qui s'exprime, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fois comme réponse à Dieu qui se livre et puis comme amour du prochain.
Cette piété populaire qui passe par le corps, qui passe par des gestes, des signes, des paroles, ça prend tout son sens aussi avec ce mystère de Noël de l'incarnation.
Oui, souvent dans la piété populaire, ce qui est représenté, c'est à la fois le mystère de l'incarnation et à la fois le mystère de la passion. C'est-à-dire Jésus, vraiment dans son humanité, Jésus fragile, qui vient nous rejoindre justement dans notre quotidien, dans nos épreuves, dans les déconvenues de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que si vous allez à Séville, vous voyez que beaucoup de représentations du Christ en croix, du Christ aux outrages, du Christ aux liens, le peuple se retrouve là-dedans. D'ailleurs, à Aparecida, les évêques le disent, le peuple chrétien se retrouve dans ces expressions et veut du coup le manifester, le représenter par ces processions et par tout ce que nous pouvons voir de la piété populaire, en particulier au moment de la Semaine Sainte.
Le pape a souligné un peu la pratique de la laïcité en Corse en disant que c'était une laïcité intelligente où la foi populaire réunit à la fois les élus, les habitants, les curieux de la rue. Est-ce que justement en France, on a peut-être mal compris un peu ce principe de la laïcité ou ça dépend peut-être des régions, des endroits? En tout cas, le pape François a plutôt encouragé cette piété populaire.
C'est-à-dire qu'il y a une constatation, c'est qu'en Corse, le lien entre religion vie civile, si je puis dire, vie républicaine, n'est pas cloisonnée, comme parfois on l'imagine. Et donc, il a prêché pour une laïcité ouverte, qui ne soit pas fermée sur elle-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la laïcité dont on parle à Paris, si je puis dire, ou dans les journaux nationaux, ou bien dans les livres de gens savants. Et puis ensuite, il y a la laïcité sur le terrain. Et la laïcité sur le terrain, c'est qu'on est ensemble, par exemple avec des élus, on est ensemble au service des mêmes populations. J'en profite pour souligner que la laïcité en France est une laïcité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas de religion particulière, mais ça n'est pas une laïcité de la société, parce que la société, elle n'est pas laïque. Elle est traversée par des courants religieux, par des courants athées aussi, par tout ce qu'on veut, vous voyez, comme courant de pensée. Oui. Mais personne ne peut dire la société doit être laïque, comme si on avait, je ne sais pas quelle autorisation, de neutraliser les expressions de notre société. C'est, on a le droit d'être chrétien, on a le droit d'être bouddhiste, on a le droit d'être musulman. Ça, c'est la société, c'est la réalité. Voilà. Et donc, la laïcité n'interdit pas, au contraire, elle permet la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté de manifester aussi sa foi dans la sphère publique, comme d'ailleurs personne ne remet en cause la possibilité de faire une procession dans la rue, de sonner des cloches. C'est ça, une laïcité ouverte. Alors parfois, certains voudraient fermer cette laïcité, mais je crois que ça n'est pas possible de se fermer à la transcendance, de décréter que des personnes ne peuvent pas croire en Dieu et qu'ils n'ont pas le droit de l'exprimer dans l'espace public. Ça serait là attentatoire à la dignité de la personne et puis tout simplement à notre liberté. Alors je pense que le pape a voulu signaler cela parce que c'est assez facile en Corse. Moi j'ai vu que la laïcité ne pose pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la foi chrétienne est vraiment enracinée dans la culture corse.
C'est ça, oui.
Voilà. Et donc, c'est une culture qui a accueilli la foi chrétienne.
Alors, quelques mots de cette ambiance en Corse, parce que, bon, on vous a vu, vous nous avez même envoyé sur Facebook un petit message, il y avait un soleil magnifique, énormément de monde, une ferveur, une intensité, les journaux parlent d'émotion. Comment vous l'avez vécu et pouvez-vous nous transporter dans cette ambiance de joie ? En plus, c'était le dimanche de la joie, troisième dimanche de l'Avent. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce voyage en Corse ?
Oui, alors dès que le pape arrive, c'est sûr qu'il y a de la joie. C'est comme à Marseille l'an dernier. Il y a eu d'abord un grand honneur, une grande fierté de la part du peuple corse de recevoir le pape qui n'était jamais venu dans l'île de Beauté. D'abord, ils ont un évêque qui est cardinal. Ça n'était jamais arrivé. Et puis ensuite, le pape vient. Donc c'est vraiment, quand on est sur une île, ben, on se sent un petit peu à l'écart quand même du continent. Et donc là, il y a eu l'intérêt du pape pour cette île de Corse. Et je crois que ça a été très important pour le peuple. Ah ben tiens, on nous regarde de l'extérieur. Et quelqu'un disait que voilà, un dirigeant international avait posé son regard sur la Corse. C'est une joie chrétienne, mais c'est une joie aussi d'être reconnu, la joie d'accueillir le pape, et puis de voir tous les gestes simples qu'il a posés et qui parlent au peuple corse. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est on s'est arrêté dans un des premiers baptistères de la Corse, qui a été retrouvé il y a quelques années, et donc qui a été mis en valeur. Mais il est au milieu des immeubles, il est vraiment dans la périphérie d'Ajaccio. Et le pape s'est arrêté là, et un jeune homme a dit le credo. Et puis, il y avait là des catéchumènes, donc des adultes qui allaient être baptisés. Le pape n'est même pas descendu de sa voiture. Tout s'est passé à l'extérieur, comme ça, assez vite. Mais c'était très simple, très beau. Et je crois que les gens sont touchés. Et puis alors, je pense que le pape avait demander aux gens qui assurent sa sécurité d'accepter qu'on lui porte les enfants à bénir.
Ouais.
Et donc, il y a eu plein de petits bébés là, qui étaient ouais. enveloppés dans des espèces de combinaisons en fourrure, comme des petits moutons. Là. C'était assez charmant. Et alors, on les amenait au pape et il les bénissait. Ben, ça touche un peuple, si vous voulez. Mm. Ça, c'est compréhensible. Ce n'est pas des grands discours. Ce sont des gestes. La foi populaire, elle est faite de cela. Parfois, la bénédiction d'un enfant, elle est plus marquante que 5 pages de texte sur l'importance des enfants.
Oui, tout à fait. Le pape, donc, on sait que ce sera son dernier voyage, on va dire, de l'année, puisque le 24 décembre, il y aura l'ouverture des portes saintes à Rome, puisque c'est l'ouverture du jubilé. Hein, ces portes se refermeront le 6 janvier 2026. Vous-même, vous nous invitez aussi à un jubilé, je crois. On en parlera dans une autre émission. Avez-vous un message de Noël à faire passer aux auditeurs de Radio Ecclésia ?
En fait, les portes du jubilé ouvriront le 29 décembre et non pas le 24.
Ah, mais, faut que je revoie mes sources.
Non, mais c'est pas très grave parce qu'on peut confondre entre toutes ces dates. En tout cas, oui, là, c'est Noël. Et moi, je voudrais souhaiter à tous les auditeurs vraiment une très belle fête de Noël. Et c'est vrai que cette fête de Noël, eh bien, elle nous ouvre à l'espérance, qui est le thème du jubilé. Hein, voilà. Alors donc, bonne et sainte fête de Noël à tous nos auditeurs.
Vous aussi, Monseigneur. Merci.